Ok, décortiquons tout ça. Imaginons un instant le tableau. On a une vallée ardennaise hyper encaissée, avec les méandres de la rivière Semois en contrebas.
Ouais, et un monastère vraiment imposant, niché en plein milieu des bois, quoi.
Exactement. Et du coup, aujourd'hui, on fait une vraie plongée, une exploration approfondie dans une pile de sources assez dingue. On a des archives historiques, des plans d'architecture des années 30.
Et des décisions de justice ecclésiastique aussi?
Voilà, des décisions de justice très récentes qui concernent l'abbaye de Cordemois. Notre mission avec tout ça, c'est de comprendre comment un lieu, géographiquement aussi isolé, est devenu le point de rencontre entre une architecture ultramoderne et une vraie rébellion institutionnelle.
Ben, ce qui est fascinant ici, c'est ce contraste permanent. Sur le papier, l'ancrage spirituel y remonte très loin, en 1247 pour être précis, avec la comtesse Ermesinde de Luxembourg.
Ah oui, c'est vieux.
Très vieux, ouais. Mais dans les faits, l'histoire est pleine de ruptures. Il y a eu des destructions pendant la guerre de 30 ans, un exil forcé après la Révolution.
Et un retour en Belgique qui se fait seulement en 1933, c'est ça?
C'est ça. Et pour marquer ce retour, l'architecte Henri Wess prend une décision radicale. Il utilise massivement du béton armé.
Et ça, franchement, c'est un défi d'ingénierie monumental, parce que essayer de couler du béton liquide pour faire des structures massives au bord d'une gorge escarpée dans les années 30, ouais, c'était pas gagné d'avance. C'est clair, c'est un peu comme construire un navire en pleine tempête sur l'océan. Le moindre faux mouvement et tout glisse dans la rivière, quoi.
Surtout que Vaez ne s'arrête pas juste à la prouesse technique. En fait, il camoufle toute cette ossature ultramoderne sous un parement en schiste ardennais.
Ah, pour que ça se fonde dans le décor.
Voilà, pour que l'abbaye ait l'air d'émerger naturellement de la roche. Le béton dicte même la spiritualité du lieu, en fait. À l'intérieur de l'église, les ogives ne sont pas juste des piliers de soutien. Elles imitent des mains jointes vers le ciel.
C'est magnifique. La matière brute devient une prière permanente. Et cette idée d'un béton indestructible, bien camouflé, je trouve que ça prend tout son sens avec ce qui s'est passé très récemment. Les murs ont tenu bon et les sœurs se sont forgées exactement la même carapace quand leur hiérarchie a voulu tirer le rideau.
Ouais, c'est vraiment là que l'histoire devient tendue. En 2016, l'ordre cistercien de la stricte observance, donc l'organisme mondial qui gère ces monastères, décide de fermer l'abbaye de Cordemois.
À cause du vieillissement et de la baisse des vocations, j'imagine, le motif classique.
Exactement. L'institution veut centraliser tout ça. Mais le truc, c'est que les six sœurs qui vivent encore là-bas refusent de faire leurs valises.
Attends, je t'arrête 2 secondes. Le principe même d'un ordre de stricte observance, c'est la soumission totale au sommet, non?
Bah oui, en théorie.
Alors comment 6 femmes peuvent dire non à une administration internationale pendant 8 ans sans se faire expulser?
C'était un risque énorme. C'est tout le cœur du problème. Elle risquait d'être, je cite, réduite à l'état laïque.
Ce qui veut dire concrètement?
Dans le droit de l'Église, ça veut dire être purement et simplement licenciée de la vie religieuse. Elles perdaient leur statut de moniales. Mais elles ont trouvé et utilisé une faille dans le droit canonique.
C'est l'accord de juillet 2024, c'est ça?
C'est ça, un accord historique. Pour échapper à leur ordre mondial, elles se sont placées sous l'autorité directe de l'évêque local, au sein du diocèse de Namur.
Elles ont carrément changé d'employeur juridique pour court-circuiter leur hiérarchie internationale et sauver leur maison. Franchement, c'est un coup de maître. Mais après, cette indépendance, faut la financer. Entretenir tout ce béton et le domaine, c'est pas gratuit.
Non, c'est sûr. Et la règle de Saint-Benoît impose le travail manuel. Historiquement, les monastères cherchaient l'autosuffisance, et aujourd'hui, cet impératif économique, il se traduit par une boulangerie redoutablement efficace.
Ah oui, les fameux kramik et kraklin,
Voilà.
des pains briochés géants, très peu sucrés et qui sont fabriqués sur place. Apparemment, c'est devenu une telle institution dans la région qu'il y a des ruptures de stock au magasin de l'abbaye quasiment tous les vendredis.
Ouais. Ces brioches financent littéralement leur survie. Et à côté de ça, le domaine a intelligemment ouvert ses portes au tourisme vert. Ça crée une sorte de zone tampon entre le silence de la clôture religieuse et l'accueil du grand public.
Un peu comme avec la passerelle de l'Épine, inaugurée en 2020.
Exactement. C'est une impressionnante structure suspendue au-dessus de la Semois qui permet aux randonneurs de traverser la vallée pour rejoindre les sentiers du Pic du Diable.
Du coup, quand on regarde tout ça de plus près, cette histoire, elle résonne bien au-delà de la simple question religieuse. On a souvent tendance à penser que les grands systèmes, les réglementations, c'est là pour protéger les petites communautés. Mais ici, le système menaçait carrément de détruire ce qu'il était censé préserver.
C'est tout à fait ça. Face à une bureaucratie centralisée qui préférait l'efficacité administrative au détriment de l'ancrage local, ces 6 femmes ont dû faire un choix radical.
Ce qui laisse une idée vraiment fascinante à méditer. À une époque où on s'accroche souvent aux règles établies, par confort ou par peur des sanctions, Est-ce que le véritable acte de préservation d'un héritage, ça consiste pas parfois à avoir le courage d'entrer en rébellion contre son propre camp ?